remercie beaucoup de votre accueil et de m'avoir fait travailler sur ce sujet que je ne connaissais pas si bien, en fait. Ça m'a donné l'occasion de lire un petit peu et d'approfondir mes connaissances. Donc, je suis très heureux aussi d'apprendre que Saint Thomas est l'un des saints patrons de l'aumônerie de l'ENS. Donc, j'imagine que vous faites des conférences régulièrement sur lui et je m'en réjouis. Je peux aussi parler de Saint Albert le Grand, si vous voulez. Je connais mieux Saint Thomas d'Aquin. Alors, sur l'espérance chez Saint Thomas d'Aquin, vous savez, parce que vous avez déjà suivi un cycle de conférences, que notamment c'est Saint Paul qui enseigne ces trois, ce qu'on appelle les trois vertus théologales, maintenant demeure la foi, l'espérance et la charité, dans la première épître aux Corinthiens. Donc Saint Thomas, puisque c'est un auteur scolastique, il considère que c'est un thème important, et il lui consacre un traité. Alors ce traité, il est dans la deuxième partie de la somme de théologie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du plan de la somme de théologie, mais donc la première partie parle de Dieu et de son œuvre. La deuxième partie parle de l'homme en tant qu'il s'approche de Dieu. Voilà. On l'appelle aussi la partie morale parce que l'homme s'approche de Dieu par ses actes libres. Voilà. Et donc, même si l'espérance n'appartient pas à ce que les philosophes appelleraient la morale, enfin, en tout cas la philosophie morale, puisque l'espérance est une vertu théologale, c'est une réalité qu'on connaît par la foi, et bien pour autant, puisque, comme on le verra, l'espérance est remise à l'usage de la liberté humaine, et bien elle appartient à la morale théologique. Et puis la troisième partie de la somme est sur le Christ qui, comme le dit Saint Jean, est le chemin qui nous permet de tendre vers Dieu. Alors dans la morale de Saint Thomas, donc il y a une première partie qui est la morale générale, c'est tous les principes. Si vous allez lire le catéchisme de l'Église catholique, vous verrez que le catéchisme a repris exactement le plan de Saint Thomas, au moins pour la morale générale, suivie après d'une morale spéciale, c'est-à-dire la morale générale, c'est les grands principes de la morale, et puis la morale spéciale, c'est tous les aspects concrets de la morale. Et Saint Thomas organise notamment les aspects concrets de la morale à partir des vertus. Et donc, il y a trois vertus théologales, quatre vertus cardinales, et donc l'espérance est la deuxième de ces vertus. À chaque, donc de manière, on pourrait dire pragmatique, Saint Thomas associe à chaque vertu un don de l'Esprit Saint, ou plusieurs, aussi des vices ou des péchés qui s'opposent à cette vertu, et puis le commandement de Dieu, qui correspond. Si vous allez lire le catéchisme de l'Église catholique, dans la partie de la morale spéciale du catéchisme de l'Église catholique, on n'a pas suivi les vertus, mais on a suivi les 10 commandements. C'est une tradition catéchétique. En tout cas, on voit que les deux se rejoignent. Alors moi, je ne vais pas suivre exactement le plan du traité. Je voudrais d'abord faire vous exposer quelques présupposés philosophiques. Je vais dire notamment la place de la philosophie dans la théologie. Ensuite, je parlerai de la vertu d'espérance. Après, je la situerai dans l'ensemble de la vie chrétienne. Et puis je mentionnerai les péchés qui sont contraires à l'espérance. Tout d'abord, donc, les présupposés philosophiques. La théologie, hein, c'est d'abord la transmission de la foi. Ça, c'est fondamental. Et donc, si le théologien utilise la philosophie, c'est pour manifester ce qui est à croire. C'est pour le transmettre plus facilement, pour qu'on voit ce qu'il y a à voir, et du coup que l'on croit. Ça, c'est vraiment très important, d'autant qu'il y a des époques où on a défini, un petit peu fasciné par la puissance conceptuelle de la théologie, notamment de Saint Thomas d'Aquin, on a défini la théologie comme une déduction. Alors, c'est en fait pas du tout de ça qu'il s'agit. Le concept philosophique permet de montrer, mais sûrement pas de déduire, parce que l'objet, c'est pas... ne peut pas se déduire, ne fait pas l'objet d'une connaissance adéquate, puisque c'est un objet de foi. Pour autant, si la philosophie est au service de la transmission de la foi, elle est vraiment de la philosophie. C'est-à-dire qu'elle se repose sur ses principes propres, qui sont le génie humain. Alors il est vrai que la transmission de la foi stimule la théologie, la philosophie, pardon, et du coup l'amène à découvrir de nouvelles choses. C'est ce qu'on appelle notamment la philosophie chrétienne. Non pas pour dire qu'il faudrait être chrétien pour la comprendre, mais pour dire que c'est les chrétiens qui l'ont développée pour essayer de rendre compte de leur foi et de leur vision du monde. On va voir qu'il y a quelques applications dans les domaines dont je vais parler. Donc la doctrine de l'espérance, elle s'appuie sur notamment deux analogies. Analogies, c'est-à-dire des connaissances qu'on peut rendre évidentes à la raison, qui sont d'ordre philosophique, qu'on va appliquer aux données de la foi pour l'éclairer. Ces deux analogies, la première c'est la vertu et la deuxième c'est l'espoir. Donc d'abord, l'analogie de la vertu. Qu'est-ce que c'est que la vertu ? L'être vivant, l'homme par exemple, mais la plante aussi, n'importe, il n'a pas d'emblée sa perfection. Et donc, pourtant, il a d'emblée l'être. Mais avec l'être, il reçoit donc des puissances qui lui permettent de s'ouvrir aux objets extérieurs pour recevoir d'eux sa perfection. Ces puissances, dans certains êtres, elles sont entièrement régies par la nature, on pourrait dire par l'instinct naturel. Donc, la plante grandit mue par son instinct. Mais si on va à l'autre bout, tout en haut de l'échelle, c'est-à-dire nous, même si on a des puissances comme ça, végétatives, on est aussi des êtres libres. Et donc, on n'est pas déterminé par notre nature à une certaine action. On a une raison qui nous permet d'envisager les choses dans leur universalité, et donc une liberté qui est indéterminée par rapport aux différents choix. Et donc, il faut que, pour agir, nos puissances doivent forcément avoir une détermination, qui sera bonne ou qui sera mauvaise. On appelle ça un habitus. Et donc, c'est une qualité qui est personnelle et qui est la résultante d'actes qui sont antérieurs. Voilà. C'est ce qu'on appelle les habitudes, mais c'est aussi, voilà, comme les enfants, on les éduque. On leur communique de bons habitus. Alors, la vertu, précisément, c'est un bon habitus. Un habitus qui résulte de ce que l'on agit conformément au bien que perçoit notre raison. Ça, la philosophie peut le comprendre, la théologie le comprend encore mieux, que notre raison, elle est capable de comprendre les fins qui sont inscrites dans notre nature. Et donc, plus j'agis conformément aux fins qui sont inscrites dans ma nature, plus je communique d'une certaine manière la lumière qui est dans ma raison, qui est la partie la plus noble de moi-même, dans toutes mes autres facultés. Déjà dans ma raison elle-même, on va dire mon intellect pratique, celui qui permet d'agir. Si j'agis bien, petit à petit, j'acquiers un bon jugement, ça s'appelle la prudence, la vertu de prudence. Et puis, quand j'agis bien, notamment dans mes relations avec les autres, eh bien, ma volonté se charge d'une qualité, d'une vertu, qui est la justice. Et puis, mes puissances sensibles elles-mêmes acquièrent des qualités, donc des habitus ou des vertus, qu'on appelle la force et la tempérance. Et donc, j'ai nommé les quatre vertus cardinales. La vertu se définit donc comme la disposition stable d'une puissance à bien agir, et à agir donc selon l'usage de la liberté. Celui qui a une vertu, eh ben, il peut l'utiliser pour bien agir. Et le signe qu'il a acquis la vertu, c'est non seulement qu'il agit conformément à la raison, au bien perçu par la raison, qui est donc universalisable. C'est pour ça qu'on peut louer un bon comportement, qu'on est d'accord sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et aussi que quand on agit selon la vertu, on éprouve une joie ou un plaisir. Parce qu'on est fait pour ça. Tout notre être agit de manière raisonnable, bonne, en vue des fins qui sont inscrites en nous. Alors le théologien, il reprend ces données de la philosophie morale et il les applique à ce que dit la révélation. Ce que dit la révélation, qui peut être d'une certaine manière entrevue par la philosophie, c'est que la nature humaine, et donc toutes sortes de fins qui sont inscrites en elle, mais sa fin ultime, celle qui est la seule qui puisse reposer la volonté, apaiser son désir, c'est une fin qui est surnaturelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre par ses propres forces. Saint Thomas dit que c'est la vision de Dieu. Ça, c'est le grand paradoxe de l'anthropologie chrétienne, c'est que notre nature nous oriente vers une fin qu'on ne peut pas atteindre par nos seules forces, mais seulement par la grâce de Dieu. Et pas seulement par la grâce de Dieu, mais aussi par la grâce, c'est-à-dire un don gratuit de Dieu, mais aussi par nos propres actes. Là encore, alors on pourrait dire aussi que la raison humaine le pressent, on n'est pas... Les musulmans pensent aussi que nos actes seront jugés par Dieu, que Dieu récompensera les hommes bons. Mais, vous voyez, c'est exactement ce que... On pourrait dire qu'il y a une forme de contradiction en disant soit on atteint la fin ultime par le don de Dieu, soit on l'atteint par nos propres actes. En fait, non, c'est pas du tout contradictoire, parce que Dieu est tellement bon qu'il nous donne d'agir de manière conforme à sa volonté. C'est-à-dire, il veut être redevable de nos bonnes actions. Et ça vient vraiment de la grandeur, de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi donc, le théologien, il est très content de trouver dans la philosophie cette notion de vertu. Parce que, précisément, la vertu, c'est la qualité qui me permet de bien agir. Et donc, si Dieu veut donner la vie éternelle à ceux qui agissent bien, eh bien, ça veut dire que sa grâce, elle s'accompagne des vertus qui sont nécessaires pour bien agir. Et en particulier, ces trois vertus principales dont parlait saint Paul, la foi, l'espérance et la charité. Donc ces vertus, elles permettent à l'homme d'atteindre Dieu lui-même d'une certaine manière, et donc d'orienter toute sa vie en vue de la vie éternelle qui est une communion avec Dieu. On pourrait dire matériellement aussi que ça lui permet de répondre à toutes sortes de commandements qu'il trouve dans la Bible, qui lui disent, qui l'encouragent à croire en Dieu, à espérer en Dieu, qui l'encouragent à aimer Dieu, à aimer son prochain. Autant d'actes qui, à les comprendre strictement, dépassent notre vertu naturelle et présupposent qu'on a une vertu surnaturelle. Mais donc une vertu surnaturelle qui est une vertu, c'est-à-dire qui est remise à notre usage libre. Ça, c'est la première analogie, l'analogie de la vertu. Et vous avez vu donc que ça nous permet de dire, de désigner ces trois choses, la foi, l'espérance et la charité, dont parle saint Paul. Deuxième analogie, c'est l'analogie de l'espoir, ou on pourrait dire de l'espérance sensible, qui nous permet de comprendre, enfin en tout cas qui nous donne une analogie pour comprendre comment l'espérance se distingue de la foi et de la charité. C'est déjà la manière de faire de saint Paul, puisqu'il dit dans l'Épître aux Corinthiens, en parlant de l'espérance, le laboureur doit avoir un espoir quand il laboure. Vous voyez, saint Thomas n'est pas le premier à utiliser la philosophie et donc à faire des analogies. Alors, comment spécifier cet acte qu'est l'espoir, qui est une passion, c'est un acte de l'appétit sensible? Eh bien, comme tous les actes, on arrive à les distinguer les uns des autres en spécifiant leur objet. Alors, saint Thomas nous dit, il y a quatre éléments qui permettent de spécifier l'objet de l'espoir ou de l'espérance sensible, mais en fait de toute espérance, vous allez voir. Tout d'abord, on espère toujours un bien. Il y a d'autres passions qui ont pour objet un mal. Par exemple, la crainte. Donc j'espère un bien, mais je crains un mal. Deuxième élément, on espère un bien futur, puisque l'espoir est un mouvement vers le bien espéré. Au contraire, il y a des passions qui ont pour objet un bien présent, par exemple la joie. Troisième élément, donc ce bien futur qui est l'objet de l'espérance, est aussi un bien qui est difficile à atteindre. Ou autrement dit, un grand bien, un bien qui n'est pas à portée de la main. A l'inverse, il y a des passions qui portent sur des biens futurs qui ne sont pas difficiles à atteindre. Par exemple, le désir peut porter sur un bien qui est difficile à atteindre, mais aussi sur un bien qui est facile à atteindre. Or, ce paramètre de la difficulté du bien permet notamment de distinguer toutes sortes de passions qu'on appelle les passions de l'irascible. Ça, c'est un point, par exemple, une illustration de la philosophie chrétienne. J'ai appris ça en préparant. C'est que irascible et concupiscible sont des grandes distinctions des passions. En fait, on ne les trouve pas chez les stoïciens, ni chez Aristote, mais chez les pères de l'Église. qui ne veut pas dire que ce n'est pas philosophique. Mais c'est une philosophie qui a été développée par des chrétiens. Quatrième point, donc quatrième élément du bien de l'espérance, hein, c'est que ce bien futur et difficile doit être aussi possible. Parce qu'on n'espère pas ce qu'on ne pourrait pas atteindre. Saint Thomas prend l'exemple notamment de l'oiseau de proie, en disant, il y a les oiseaux de proie, tant que la proie est loin, il ne fait rien. Mais à partir du moment où il sent qu'il peut l'atteindre, là il y va. Et donc on voit bien qu'il a de l'espérance. Alors à l'opposé, hein, le désespoir est une passion qui a pour objet un bien futur difficile, mais impossible à atteindre. Voilà, pour résumer, donc l'espoir se distingue des autres passions parce qu'il est ordonné à un bien futur difficile et possible, c'est les quatre conditions. C'est donc un acte de la puissance appétitive, c'est-à-dire de la tendance, de l'inclination, qu'elle soit une inclination sensible ou aussi même l'inclination spirituelle de la volonté. Pourquoi ? Parce que son objet est le bien, et le bien c'est l'objet de la puissance appétitive. Et il présuppose une appréhension donc, de la puissance cognitive antécédente, qui lui présente un bien qui est connu, donc comme une chose qui est connue comme un bien futur, possible, mais difficile. Alors c'est très important, parce que donc il faut que l'intelligence ou la faculté intellectuelle, quelle qu'elle soit, voit non seulement que c'est un bien, ce qui relève pour Aristote de la cause finale, mais aussi que c'est un bien qui est à la fois difficile et possible. Et ça fait référence à ce qu'on appelle la cause efficiente. En gros, c'est est-ce que par ma vertu, je suis capable d'atteindre ce bien ? Peut-être pas maintenant, mais un jour peut-être. Ou alors, non seulement pas maintenant, mais même pas plus tard, mais ce sera seulement par l'aide de quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc la puissance cognitive doit pouvoir saisir à la fois la cause finale et aussi la cause, ce qu'il en est, la cause efficiente, pour voir si c'est bien un bien futur, difficile mais possible. Donc vous voyez, à partir de ça, on pourrait continuer, mais je m'arrête au début du traité de l'espoir, hein, qu'on a une analogie qui va permettre de mettre en lumière ce que la Bible va nous dire sur l'espérance théologale. Alors juste petite remarque avant de passer à l'espérance théologale. La morale philosophique voit qu'il peut y avoir aussi une espérance d'ordre simplement moral qu'on appelle soit la confiance, soit la magnanimité, qui ordonne l'espoir au sujet des plus grands biens de l'homme dans sa vie, pourrait dire simplement humaine, qui sont les honneurs. Alors voilà, à cette vertu s'opposent les vices suivants. La présomption, qui consiste à croire une mauvaise perception, ou croire qu'on est capable en fait on n'est pas capable. L'orgueil, qui est immodéré dans la mesure où en fait ce qu'on veut atteindre c'est pour soi-même et pas pour Dieu ni pour le service des autres. Et puis, c'est plus facile à comprendre, la pusillanimité qui consiste à croire que de toute façon c'est impossible. Donc voilà les deux présupposés philosophiques, l'analogie de la vertu et l'analogie de l'espoir. Alors maintenant venons-en à l'espérance théologale. Donc pour manifester ce qu'est l'espérance théologale, Saint Thomas va commencer par déterminer son objet. Comme tout à l'heure, pour l'espoir, c'est par l'objet qu'on saisit ce qu'est un acte. Alors là, c'est toujours un acte d'espérance, mais avec un objet bien spécifique qui fait que l'espérance théologale n'est pas l'espoir de l'oiseau de proie qui fond sur le moineau. Voilà. Et notamment, Saint Thomas va faire très attention à ce que je vous ai dit, à savoir qu'en est-il de la cause finale et de la cause efficiente. Alors, puisque ça pourrait sembler un petit peu abstrait et que c'est un petit peu subtil, j'illustrerai le tout en faisant référence à la prière du Notre Père. Parce que donc, quand on prie le Notre Père, on demande des choses à Dieu, et donc si on les demande, c'est qu'on est en droit de les espérer. Alors saint Thomas ne le fait pas tellement dans le traité de l'espérance, mais quand on va lire ailleurs, en fait, on voit bien que c'est tout à fait lié pour lui. Donc, je montrerai que l'espérance est d'abord une vertu théologale, ensuite qu'elle est une vertu théologale distincte de la foi et de la charité, et puis enfin une vertu ecclésiale, c'est-à-dire qui concerne pas seulement moi et Dieu, mais aussi nos rapports interpersonnels. Donc tout d'abord, une vertu théologale. Donc comme la foi et la charité, l'espérance est une vertu théologale parce que, donc, premièrement, elle est surnaturelle, c'est-à-dire qu'il faut que Dieu la donne par grâce, on ne peut pas l'atteindre par nos propres efforts. Et puis deuxièmement, elle atteint Dieu lui-même. C'est Dieu qui est son objet. Alors comment est-ce que Dieu est l'objet de l'espérance? Eh bien, ce n'est pas d'abord comme cause finale. Ce n'est pas d'abord comme bien à atteindre. C'est comme cause efficiente. C'est donc j'espère en Dieu parce que il peut me donner quelque chose que je ne peux pas atteindre par moi-même. Ça, vous voyez, c'est comme ça que saint Thomas, donc on va voir dans un instant pourquoi c'est important de dire ça, mais donc l'espérance porte d'abord sur Dieu comme cause efficiente, comme celui qui peut me permettre, qui peut rendre possible un bien qui est hors de ma portée, et non pas comme ce bien. Alors ça, on le voit bien dans le Notre Père. Hein. Pourquoi ? Pas déjà parce qu'on appelle Dieu Père, donc un père, normalement, ça donne des choses à ses enfants, comme dit Jésus dans l'Évangile, de bonnes choses à ses enfants, et donc, effectivement, dans le Notre Père, on dit Notre Père qui est aux cieux, et puis après, on lui adresse cette demande. Donc si on lui demande, c'est donc qu'on le considère comme la cause efficiente, donc l'agent qui peut me donner ce que moi, je ne peux pas me donner à moi-même. Donc ça, une vertu théologale. Maintenant, comment est-ce que cette vertu théologale est distincte de la foi et de la charité? Donc elle se distingue de la foi et de la charité, non pas parce qu'elle aurait un autre objet, dans les trois cas, l'objet c'est Dieu, mais elle n'atteint pas Dieu de la même manière que les autres. Alors saint Thomas s'appuie, là, il trouve que le texte le plus explicite, qui est d'ailleurs un texte un peu métaphorique, c'est un texte de l'Épître aux Hébreux, qui dit... Cette espérance, nous la tenons comme une encre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur. Donc l'espérance, le bien qu'elle vise, c'est ce qui est derrière le rideau. Là où Jésus est entré et donc là où on voudrait entrer aussi. Alors, ça permet de distinguer l'espérance d'abord de la charité, puis ensuite de la foi. D'abord, contrairement à la charité, l'espérance n'atteint pas Dieu en lui-même. La charité, son objet, c'est Dieu pour lui-même. C'est « j'aime Dieu pour lui-même ». Et aimer quelqu'un pour lui-même, c'est vouloir son bien. Ça, c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à comprendre, parce que l'individualisme conçoit l'amour comme égoïste, en fait. J'aime l'autre pour ce qu'il m'apporte. Mais en fait, ça c'est qu'un aspect de l'amour est un aspect secondaire. L'aspect principal de l'amour, c'est que je suis comme un avec l'autre et que du coup, le bien de l'autre, c'est mon bien. Et donc, ma manière d'aimer l'autre, c'est de vouloir son bien à lui. Parce que son bien à lui, c'est mon bien à moi. L'espérance, à l'inverse, ce qu'elle veut, c'est aller derrière le voile. Et donc, l'espérance, elle est d'abord basée sur un amour qui est un amour de soi. J'ai envie d'aller derrière le voile, c'est-à-dire j'ai envie d'aller dans la béatitude, j'ai envie d'atteindre la vie éternelle. Alors, vous voyez, il y a deux amours qui sont... pas d'autres deux amours. Deux amours, donc l'amour de soi et l'amour de Dieu. Mais un amour de soi qui n'est pas contraire à l'amour de Dieu. Parce que cet amour de soi, c'est l'amour de ce pourquoi Dieu m'a créé, c'est-à-dire la vie éternelle. Et donc, il est normal que si j'aime Dieu, j'ai envie que la volonté de Dieu s'accomplisse, et il m'a créé pour la vie éternelle. Seulement, vous voyez, c'est parce que j'aime Dieu, par la charité, que par l'espérance, que cet amour qui soutient mon espérance, c'est de vouloir aller au ciel. Alors parfois on est un petit peu on est un peu embêté que, que l'amour de l'espérance, qu'en tout cas que l'amour soit à l'inverse. J'ai dit tout à l'heure, on croit parfois que tout amour est égoïste, mais en fait parfois aussi quand on est chrétien on bascule dans l'extrême inverse en disant mais l'amour est totalement oblatif en fait. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait de l'égoïsme dans l'amour? Il y a de l'égoïsme tout simplement parce qu'on n'est pas Dieu. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est qu'en fait on a été créé imparfait et donc on aspire à la perfection. Il n'y a que Dieu qui peut être totalement oblatif, parce que Dieu, il est parfait, par essence. Alors, dans Notre Père, on le voit, on voit que la charité est l'amour principal, parce que la première demande, ce n'est pas une demande de l'espérance, c'est une demande de la charité. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, moi, je veux ton bien à toi, Dieu, en premier. Ça, ce n'est pas la demande de l'espérance, c'est la demande de la charité. Alors, souvent, quand on parle des prières de l'Église, on dit, en fait, parce qu'on se dit, c'est possible que je n'ai pas la charité. Seulement, l'Église, on sait que l'Église a la charité. Il y a au moins quelqu'un dans l'Église qui a la charité, donc on peut dire, avec les paroles de l'Église, que ton nom soit sanctifié en toute vérité. Donc ça, c'est la manière dont l'espérance se distingue de la charité. Donc, la charité aime Dieu pour lui-même, et l'espérance... elle aime Dieu pour le bien que j'en reçois. C'est aussi le cas de la foi, seulement pas de la même manière. En effet, la foi, elle aime Dieu en tant qu'il me fait connaître la vérité. Et l'espérance, elle fait connaître Dieu en tant qu'il veut me donner mon bien parfait, qu'il veut me donner la vie éternelle. Alors ça fait une petite différence là encore, parce que vous voyez que l'objet de la foi, donc la foi et l'espérance, c'était là encore pas Dieu exactement de la même manière. Notamment, la foi atteint Dieu de manière, on pourrait dire, universelle. C'est-à-dire que les vérités de la foi, c'est les mêmes pour tous. C'est le credo qu'on dit tous ensemble. Alors que l'espérance, elle me concerne d'abord moi, c'est-à-dire mon entrée dans la vie éternelle. Donc, on pourrait dire la foi, elle atteint Dieu d'une manière universelle, alors que l'espérance atteint Dieu de manière personnelle, particulière. C'est de moi qu'il s'agit d'abord. Je vais dire tout à l'heure, pas seulement. Ça, on le voit notamment dans le Notre Père, l'adjectif possessif. Notre Père, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un lien personnel entre moi, on va voir tout à l'heure, pas seulement moi, mais moi et Dieu. Dans le credo, c'est pas pareil. On ne dit pas « je crois en mon Dieu » ou « nous croyons en notre Dieu ». On dit « nous croyons en Dieu ». Voilà, il n'y a pas d'adjectif possessif parce que c'est la foi qui atteint Dieu de manière universelle et non pas de manière personnelle. Alors maintenant, regardons l'espérance de manière plus précise. Le bien espéré, je l'ai dit, c'est principalement la béatitude. Pourquoi ? Parce que l'espérance atteint d'abord Dieu comme cause efficiente, l'effet qui convient le plus à Dieu, qui est le plus proportionné à sa toute puissance et à sa bonté infinie, c'est de me communiquer la vie éternelle. Ce qui veut dire, et là on voit que ça correspond très bien à ce que nous dit la philosophie par ailleurs, que l'espoir a pour objet un bien futur, c'est-à-dire que la vie éternelle, elle est certes, elle peut commencer dès maintenant par la vie de la grâce, mais elle sera pleinement présente seulement à la fin de, enfin après notre mort. Alors ça, notamment, saint Paul le dit bien dans l'épître aux Romains. Il dit nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Nous espérons ce que nous ne voyons pas. Mais précisément, la vie éternelle consistera à voir, et donc là, il n'y aura plus d'espérance. Hormis ce que je dirais tout à l'heure sur la signification ecclésiale de la foi. Alors ça, on le voit bien dans Notre Père, c'est exactement la deuxième demande du Notre Père. Que ton règne vienne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que saint Thomas le comprend. Considère que ton règne vienne, ça veut dire « donne-moi la vie éternelle ». Alors ça peut se comprendre de manière dérivée « donne-moi ta grâce dans la vie présente », parce que la grâce, c'est le commencement, un certain commencement de la vie éternelle. Alors ce bien principal de la béatitude, enfin de l'espérance qui est la béatitude ou la vie éternelle, ça n'exclut pas, et c'est là où c'est très intéressant, ça n'exclut pas les autres biens. comme le monde d'ailleurs les autres demandent du Notre Père. Notamment, donne-nous notre pain de ce jour. Traditionnellement, on comprend que ça correspond certes au pain eucharistique, mais aussi à tous les biens possibles dont on pourrait avoir besoin. Seulement, c'est très important d'avoir dit d'abord que le bien principal, c'est la vie éternelle. Parce que ça nous montre que tout ce qu'on a le droit d'espérer, c'est l'objet des 5 dernières demandes du Notre Père, qui sont des biens temporels, ces biens, il est permis de les espérer comme des biens secondaires, en tant qu'ils sont ordonnés à la vie éternelle. Ça, pour nous, c'est extrêmement important, parce que est-ce que je vais demander à Dieu de réussir mes examens? Est-ce que je vais lui demander de me trouver un mari, une femme? Si je suis chrétien, ce sera l'objet de mon espérance théologale si je mets en premier le but de ma vie, qui est la vie éternelle. Sinon, je demanderai comme un païen qui ravache, mais si je suis dans le mouvement de ce que Dieu de la vocation que Dieu a mis en moi, quand je demande le pain de ce jour ou quoi que ce soit d'autre, je le demande en vue de la vie éternelle. Alors c'est particulièrement net parce que la troisième demande, c'est que ta volonté soit faite. Et ça, pour saint Thomas, ça veut dire ça concerne le mérite, c'est-à-dire les actions bonnes qui nous permettent de nous préparer à la vie éternelle. Donc c'est ça la première chose qu'on demande dans les réalités temporelles, c'est que je puisse faire ta volonté. Parce que c'est comme ça que je m'approche de la vie éternelle. Alors du coup, après quatrième demande, aussi, donne-moi tous les biens temporels qui sont utiles à faire de bonnes œuvres. Et quand on ne mange pas à la messe, qu'on demande la paix, etc., ou la prospérité, c'est pas pour avoir la paix ou la prospérité, c'est pour pouvoir précisément faire la volonté de Dieu dans de meilleures conditions et avoir ensuite la vie éternelle. Et puis, après, les trois dernières demandes, ça concerne des maux. Donc, d'abord, les offenses, donc le péché passé. On n'entre pas dans la vie éternelle, où on fait pas, on plaît pas à Dieu si nos péchés ne sont pas pardonnés. Et puis, la tentation. Ça, c'est le péché futur. On n'entre pas dans la tentation, on n'entre pas dans la vie éternelle si on succombe un jour à la tentation. Et puis, la demande, c'est... Délivre-nous du mal, donc c'est toutes les souffrances, tous les maux qui par eux-mêmes contredisent le bonheur de la vie éternelle. Voilà, donc j'ai montré la différence entre la vertu d'espérance et la vertu de foi et de charité. Alors ce que j'ai dit pourrait laisser croire, et parfois on lit un peu saint Thomas comme ça, mais c'est pas bien parce que c'est pas ce que dit saint Thomas. On pourrait dire, l'espérance, telle qu'il l'a décrit, ça concerne moi et mon Dieu, quoi. Puis c'est tout. En fait, c'est pas vrai. Et ça, on le voit quand on regarde aussi bien le bien espéré, donc la cause finale, que celui qui peut me le procurer, la cause efficiente. Donc du point de vue de la cause finale, certes, l'espérance porte directement sur la vie éternelle. Ça, je l'ai suffisamment montré. Mais si j'ai la charité, plus exactement, l'espérance porte sur la vie éternelle pour moi, de manière personnelle. Mais si j'ai la charité, comme je l'ai dit tout à l'heure, la charité, en fait, elle fait que je suis uni aux autres et que je considère que leur bien, c'est mon bien. À commencer par Dieu. Le bien de Dieu, c'est mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Mais puisque aimer Dieu et aimer son prochain, ça va ensemble... celui qui a la charité, il veut le bien de tous les autres hommes sur la terre, et du coup, il veut aussi pour eux la vie éternelle. Et donc, il espère pour eux la vie éternelle. Seulement, c'est plus en raison de la charité que de l'espérance qu'il veut pour eux la vie éternelle. Mais en tout cas, on voit que ça apparente quand même à de l'espérance. Alors, on le voit encore très bien dans Notre Père, ça vous a peut-être déjà marqué ou interrogé, saint Cyprien le dit bien. Ou saint Augustin, je ne sais plus, un des deux, qu'en fait, on prie en nous. Et ça, c'est très étonnant, en fait. C'est qu'en fait, c'est le nous de la charité. C'est qu'on est unis par la charité. Donc, quand je prie Notre Père, je ne prie pas seulement pour moi, pour les biens que j'espère, mais je les désire aussi pour tous les autres. Vous voyez, ce n'est pas seulement de mon salut qu'il s'agit dans l'espérance, il s'agit aussi de celui du bien de tous les autres. Et puis, du point de vue de la cause efficiente, c'est-à-dire celui qui peut me permettre d'acquérir ses biens, eh bien, directement, il n'y a que Dieu qui peut me donner la vie éternelle et tout ce qui contribue, et tout ce qui y dispose. Mais, en fait, Dieu utilise toutes ses créatures comme pour sa providence, en fait. Et donc, toute créature peut être un instrument de la providence divine pour le salut. Notamment, bah c'est le cas notamment des êtres les plus beaux que le Seigneur a fait, savoir les saints en fait. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on prie pas seulement le Notre Père, mais on prie aussi le Je vous salue Marie. Voilà. Et on demande par l'intercession de la Vierge qu'elle nous obtienne la vie éternelle, et puis aussi tous les biens dont on a besoin pour s'y préparer. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire de manière assez générale sur l'espérance chrétienne. Jusqu'à quelle heure en fait?
Ça va encore. En gros, si tu vas jusqu'à l'écart, c'est le temps en question.
Oui, c'est très bien. Alors maintenant, la fonction de l'espérance dans la vie chrétienne. J'ai déjà dit un mot du rapport entre l'espérance et les autres vertus théologales. Je peux un tout petit peu préciser. Donc tout d'abord, disons, c'est plutôt pour les remettre dans l'ordre, en fait. Et l'ordre, en fait, il y en a un qui nous est donné, c'est Saint Paul, c'est foi, espérance, charité. Donc, l'espérance présuppose la foi pour Saint Paul. Alors, on peut le comprendre à partir de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, savoir que l'espérance, c'est un habitus ou une action de la vertu appétitive qui suppose une appréhension dans la connaissance. Et la connaissance qui est adéquate à l'espérance, c'est la foi. Pourquoi ? Bah parce que la foi me dit que Dieu existe, que Dieu m'a fait pour la vie éternelle et que Dieu peut me donner ce qu'il faut en vue de la vie éternelle. C'est ce que dit notamment l'Épître aux Hébreux. Hein. Pour s'avancer vers Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Seulement, et c'est là où il y a un acte spécifique dans l'espérance, ça c'est pas forcément très simple à comprendre, c'est que... Dans l'espérance, c'est pas automatique qu'on aille de la foi à l'espérance. C'est-à-dire que ce que je crois de manière universelle, il faut que je me l'applique de manière personnelle pour l'espérer. Il faut que ça devienne un point d'appui pour moi. Et donc, ça suppose que je crois que ce que Dieu dit, en fait, il le dit pour moi et que ça a une efficacité pour moi. Donc, vous voyez, notamment, la prière est très, très importante pour passer de la foi à l'espérance. Parce que dans la prière, eh bien, je fais, comme disent les pères orientaux, hein, je fais descendre de ma tête dans mon cœur. Voilà. Je passe de l'universel au personnel. Si on regarde maintenant le rapport entre espérance et charité, donc là, l'espérance, maintenant, elle dispose à la charité, puisqu'elle elle vient avant. Pourquoi ? Parce que quand j'attends de quelqu'un un bien, ou quand je reçois de quelqu'un un bien, ou quand j'attends de quelqu'un un bien, eh ben, j'aime cette personne, en fait. Vous voyez, les enfants, ben, ils aiment leurs parents, surtout parce qu'ils les nourrissent et qu'ils prennent soin d'eux. Hein. Après, ils ont d'autres motifs plus tard, mais au début, c'est surtout ça. Et alors, donc Saint Thomas pose il pose les fondements de quelque chose qui est développé plutôt ailleurs dans la tradition, hein, sur ce qu'on appelle la grâce prévenante. C'est notamment à l'époque, pour répondre à Luther, qu'on a développé ça. Parce que Luther disait, bah, si j'ai la foi, j'ai la charité. En gros. Mais le Concile de Trente, qui a répondu à Luther, a dit non. Dieu nous dispose petit à petit par sa grâce. Et donc, avant d'avoir la charité, bah, Dieu d'abord nous donne la foi, qui nous instruit sur... qui est Dieu, qu'il rémunère ceux qui le cherchent, qu'il les récompense. Après, ceux qui croient, il leur infuse ensuite l'espérance, ça commence à descendre dans le cœur, ils prennent pour eux les paroles de la foi, et puis une fois qu'ils espèrent vraiment en Dieu, ils sont prêts à... qu'ils méditent ce que Dieu peut leur donner, ils sont prêts à recevoir le don de la charité. Mais pour le catéchuménage, je pense que c'est assez important. C'est pas parce que quelqu'un a la foi qu'il est déjà prêt à être baptisé. En fait, il faut déjà que ça descende dans le cœur, dans l'espérance, et puis que ça se concrétise dans une manière de vivre qui est celle de la charité. Voilà. Et puis inversement, hein, la charité, en fait, elle perfectionne l'espérance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. en parlant du Notre Père et puis aussi de l'aspect ecclésial de l'espérance. Voilà pourquoi, parce que quand on a un ami, on a plus d'espérance en lui que si c'est pas notre ami. Voilà. Je pense qu'il nous veut du bien. Voilà, on peut dire aussi, je vais peut-être passer plus rapidement, mais saint Thomas développe très longuement le rapport entre l'espérance et la crainte de Dieu. Vous savez, dans la Bible, on parle beaucoup de la crainte de Dieu, et il montre que c'est pas incompatible. Au contraire, celui qui a l'espérance, celui qui a la crainte de Dieu, a un terreau favorable pour l'espérance. Alors je laisse de côté, mais c'est un point très important de ce que dit saint Thomas. La crainte de Dieu, notamment, elle est d'abord elle est communiquée par l'Esprit Saint, parce que elle consiste d'abord à avoir peur de l'enfer, tant qu'on n'a pas la charité. Mais une fois qu'on a la charité, l'aspect principal de la crainte, c'est pas la peur de l'enfer, c'est la crainte d'offenser Dieu, parce qu'on aime Dieu. Voilà. Alors, il peut y avoir la crainte de l'enfer qui subsiste quelque temps, mais petit à petit, c'est aussi bien par le renforcement de la charité qui s'intéresse à Dieu plus qu'à soi, que par le renforcement de l'espérance qui fait qu'on a de plus en plus confiance dans la vie éternelle. La crainte devient presque purement la peur d'offenser Dieu. De manière très intéressante. Sainte Thérèse de Lisieux, vous savez, quand elle dit qu'une des plus grandes grâces de sa vie, c'était d'avoir, quand elle était adolescente, lu des catéchèses sur les fins dernières. Alors moi, je les ai lus. Ça commence par des développements sur l'enfer qui sont abominables. Et alors, elle, en fait, quand on lit Histoire d'une âme, on a l'impression qu'elle n'a pas lu les catéchèses sur l'enfer, qu'elle a lu que les catéchèses sur le ciel. Donc c'est intéressant, ça nous montre, en fait, quand on compare avec ce que dit saint Thomas sur la crainte, qu'en fait, elle avait déjà une charité très avancée, en fait. C'est-à-dire que toute sa crainte, c'était d'offenser Dieu, mais la crainte de l'enfer n'avait aucune prise sur elle, en fait, du fait de la vigueur de sa charité et de son espérance. Alors l'espérance, donc, se conjugue avec le don de crainte. Le don de crainte, dans la série des dons de l'Esprit Saint, c'est le dernier. Et donc, saint Augustin, puis après saint Thomas, dit que c'est le plus fondamental. Il ouvre à craindre d'offenser Dieu, ça ouvre à tous les dons de l'Esprit Saint. Et les dons de l'Esprit Saint, oui, c'est Dieu qui vient en plus des vertus. Les vertus, elles sont en mon pouvoir. Mais les dons de l'Esprit Saint, c'est une disposition à être mû par Dieu, en fait, à être inspiré par Dieu, de plein de manières. Parce que je ne peux pas faire le bien sans être secouru par Dieu presque pas à pas. Et donc, celui qui a la charité, eh ben, il expérimente l'assistance de l'Esprit-Saint par ses dons, et donc ça fortifie beaucoup son espérance. Et saint Thomas nous dit, quand on a l'espérance fortifiée par tous les dons de l'Esprit-Saint, eh ben, on expérimente ce que Jésus appelle les béatitudes. Et les béatitudes, vous savez, c'est heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux, etc. Et saint Thomas considère que les béatitudes, avec les vertus et les dons de l'Esprit-Saint, c'est aussi un principe pour bien agir. Pourquoi ? Parce que c'est une force, c'est la force de l'espérance qui nous fait déjà goûter à la présence de Dieu et à la vie éternelle, et du coup qui nous donne beaucoup plus de force pour bien agir. Voilà, pour terminer, je mentionne les deux péchés contre l'espérance. Il y a deux péchés contraires. Le premier, c'est le désespoir, et le deuxième, c'est la présomption. Donc le désespoir, c'est un péché parce que il consiste à agir d'une manière qui contredit la foi. La foi nous dit que Dieu pardonne à celui qui se repent, ou que Dieu est capable de nous convertir par sa grâce. Et le désespoir, eh ben, consiste à agir comme si ce n'était pas le cas. Alors le désespoir, c'est une disposition de notre volonté qui est contraire à ce que l'on à la foi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de désespoir dans celui qui a la foi. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi, elle est dans la tête, elle est universelle, alors que bah, l'affectivité, l'inclination, eh ben, elle est personnelle. Et donc, il peut y avoir du désespoir dans un croyant. Qu'est-ce qui fait ça ? Eh ben, c'est parce qu'on est empêché de s'appliquer ce que l'on croit à soi-même. Alors, ça peut venir de deux dispositions, nous dit saint Thomas. La première, c'est les plaisirs, et spécialement la luxure. Pourquoi ? Parce que c'est un bien sensible qui nous amène à relativiser, voire à dédaigner le bien que nous promet l'espérance, savoir la vie éternelle. Donc la promesse de la vie éternelle n'a plus aucune force dans celui qui vit dans les plaisirs. Et puis il y a une deuxième disposition qui fait que je peux être dans le désespoir même si je suis croyant, c'est ce qu'on appelle l'ascédie, c'est-à-dire une sorte d'abattement spirituel qui fait que j'ai pas l'impression que ce soit possible en fait. Même si je sens que c'est un bien d'aller de la vie éternelle, j'ai l'impression que c'est pas possible. C'est le cas par exemple, j'ai déjà vu ça, des gens qui ont fait des péchés dont ils sont extrêmement sont extrêmement coupables. À la fois ils ont la foi et ils viennent se confesser, puis enfin on sent qu'il y a une déprime qui est difficile à arracher. Donc ça c'est le premier péché contre l'espérance. Donc il ne peut pas y avoir en moi le désespoir et l'espérance, c'est soit l'un soit l'autre. Et puis il y a un deuxième péché donc, qui est opposé au premier, mais qui est aussi contre l'espérance, c'est la présomption. Ça c'est le contraire. Je crois que même si je persévère dans le péché, Dieu me pardonnera, et puis que si un jour j'arrête de bien agir, et ben, Dieu me donnera la vie éternelle. Mais ça c'est contraire à la foi, donc c'est un péché. Et alors, je termine là-dessus, hein. Saint Thomas dit, qu'est-ce que vous diriez ? Le péché le pire, c'est la présomption. C'est-à-dire, je me sauve tout seul sans Dieu, ou c'est sûr que je suis sauvé. Ou alors, c'est le désespoir. Le désespoir ?
La présomption.
La présomption ?
La présomption, parce que les gens désespérés, il ne faut pas leur mettre en plus les
témoins. Tu dis quoi, alors ?
J'irais la présomption.
La présomption ? À la réponse est le désespoir. Pourquoi ? Parce que, avec le désespoir, l'erreur au sujet de Dieu est plus grande. Pourquoi ? Parce que Dieu est plus miséricordieux que juste. Voilà. Et que la peine de l'enfer est pas nécessaire. C'est à cause de notre péché. Mais Dieu, il est fait pour pardonner et donner la vie éternelle. Alors moi, ça m'a un petit peu rassuré, parce que moi, je pense que le théologien le plus influent du XXe siècle, c'est Michel Polnareff, qui a dit « On ira tous au paradis ». Et moi, ça me désole un petit peu, parce que c'est pas tout cela que je lis dans la tradition, dans l'évangile et tout. Mais alors, quand je lis ça, je me dis « Mais en fond, c'est toujours mieux d'avoir Polnareff que d'avoir un pessimisme total, en fait ». Donc voilà, je vous partage cette découverte plutôt. Mais cela dit, Polnareff, ça marche pas non plus, c'est aussi contre l'espérance. Voilà, pour terminer, je vous lis l'acte d'espérance, même si on a plein de versions, et vous retrouverez un petit peu ce que dit saint Thomas. « Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Amen. » Bon, j'ai bien dépassé mon temps, mais
on a quand même du temps pour quelques questions.
Très bien.
Merci beaucoup pour cet exposé. Le problème avec saint Thomas, c'est que c'est tellement clair qu'on a du mal parfois à trouver des questions. Quand on lit des réflexions sur l'espérance, notamment celle de Ellul, qui n'est pas forcément très thomasien, il y a la notion, enfin en l'occurrence sur la perte de l'espérance, que c'est son sujet. De la perte de foi dans l'action de Dieu maintenant. Et on ne sait pas trop si Ellul est en fait, si on peut le racinement de le rattacher à la foi ou à l'espérance, l'action de Dieu maintenant. Parce que en soi, un bien présent, pas futur, en même temps, c'est aussi une question d'applicabilité. Comment on le traiterait ?
Ça relève plutôt de l'espérance, parce que si c'est, quand c'est concret, c'est plutôt l'espérance. Parce que même si l'objet de l'espérance c'est un bien futur, en fait Dieu, comme je l'ai dit, il y a toutes les œuvres de Dieu qui sont là pour me disposer, quoi. Donc si j'espère le bien, le pain de ce jour, par exemple, que je demande, ben, c'est en vue de l'espérance future, en fait. Parce que j'attends que Dieu me le donne, parce que ça m'est profitable en vue de la vie éternelle.
Merci.
Ouais, Maxime.
Moi, j'ai une question sur ce que tu disais comme étant associé à l'exercice de la vertu, c'est-à-dire la joie qui accompagne la vertu. Et en fait, j'aimerais bien que tu précises, parce que je pense que ça peut nous aider dans la vie chrétienne, cette joie n'est pas toujours absolument palpable. Donc comment est-ce que Thomas l'articulerait, comment est-ce qu'il nous donnerait de comprendre comment au fond l'exercice du vertu nous donne déjà une joie qui n'est pas nécessairement sensible, quoi. Enfin, je réponds peut-être un petit peu en... dans ma question. Par exemple, je pense à Abraham, dont la Bible nous dit qu'il a espéré contre toute espérance. C'est vrai à la fois dans l'attente du fils, dans l'attente d'Isaac. Et puis quand on lui dit, bah écoute, vas-y, trucide ton rejeton. Il marche vers la montagne, on ne dit pas grand chose de ce qui se passe psychologiquement là-dedans, mais voilà, comment est-ce qu'à ce moment-là l'espérance s'exerce, et comment au fond ce qui me semble aussi que dans l'exercice des vertus il y a aussi une dimension de croissance peine, qui se vit dans l'effort. Enfin voilà, je te laisse parler, sinon je commence à répondre.
L'idée qu'il y ait du plaisir dans l'exercice de la vertu, c'est une observation que fait notamment Aristote. Mais après, pour la question de la vie chrétienne, hein, du point de vue chrétien, si la vertu, ça me dispose à bien agir, pour un chrétien, bien agir, ça veut dire mériter la vie éternelle. Donc il n'y a pas de vertu au sens chrétien sans la charité, sans la grâce de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui veut dire même que quand Dieu infuse la charité, en fait, il n'y a pas que la foi, l'espérance et la charité qui sont les vertus surnaturelles, il y a aussi toutes les vertus cardinales. Parce que Dieu nous infuse aussi toutes les vertus cardinales. Et notamment, ça c'est intéressant, le pape François le cite notamment dans Amoris Laetitia, là, quand il parle, essaie de réfléchir sur la progression dans la vie spirituelle, alors il renverse un peu le sens. Mais quand Dieu attend pas forcément qu'on soit des gens qui ont acquis des vertus ou des gens bien, bien éduqués pour nous sauver, en fait. Et donc, il peut nous donner toutes les vertus sans que pour autant on ait acquis ces vertus de manière humaine. Et donc, l'exercice de ces vertus nous est pénible. Et pourtant, si je suis dans la charité, au fond, j'ai une joie profonde qui fait que normalement aucun commandement ne m'est inatteignable, même si ça m'est pénible parce que j'ai pas encore acquis les bonnes habitudes. Et donc il y a une joie qui est profonde, qui est celle de la charité et de toutes les vertus qui en dépendent, mais en même temps il y a une vraie peine parce que ça m'est difficile, quoi. Ça suffit ou pas?
Oui, je comprends aussi, parce que je pense que tu vois, la joie profonde dans l'exercice chrétien, par moments, il peut être vécu de manière en fait extrêmement intermittente. C'est-à-dire, en fait, pouvoir toucher cette joie va impliquer, entre guillemets, un certain moment de silence spirituel qui va me permettre en fait, de comprendre que je la reçois, en tout cas de l'expérimenter. Dans l'effort lui-même, je pense parfois. Enfin, disons que la joie de fond va se nourrir, enfin là c'est plus les consolations, les désolations, et va plus être capable de se nourrir d'un souvenir aussi du continuum de choses que j'ai pu comprendre, qu'au fond, malgré tout, ma joie était profonde à faire cela. Il y a des moments où je pense que c'est pas si évident, enfin, je pense qu'il y a des formes d'éclipse quand même.
En tout cas, par les trois vertus.
Il y a une certaine joie où, sur le plan rationnel, je sais que je fais le bien et où je suis. Et sur le plan sensible.
Oui, mais c'est pas que rationnel, parce que la raison, c'est la foi, ouais. Et les dons qui aident la foi, mais c'est aussi l'espérance et la charité, en fait. Et ça, c'est mon cœur, en fait. Parce que après, dans les béatitudes, il y a heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ça, c'est une béatitude, quand même. Donc, celui qui pleure, saint Thomas considère que c'est celui qui. Enfin, il suit saint Augustin. c'est celui qui pleure de ses péchés, ou de ses péchés passés, ou aussi de ses péchés véniels, enfin bref, c'est celui qui a la charité, en fait.
Pour moi, la question, c'est dans quel lieu de l'âme aussi se situe la béatitude, quoi. Parce que le heureux, celui qui pleure, on croit vraiment qu'il est heureux.
Bah, c'est au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'espérance, en fait. Donc c'est la volonté, c'est l'esprit. Après, pas que, parce qu'après, il y a toute la manière dont Dieu nous a sauvés avec le mystère du Christ. Alors ça, je ne suis pas entré là-dedans. Mais... notamment avec tous les sacrements. Après, Dieu nous a donné beaucoup de moyens sensibles aussi de nous consoler. Donc la grâce qu'il nous donne, elle n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi à travers les sacrements, à travers l'Église. Donc on a beaucoup de moyens sensibles qui apaisent notre sensibilité et qui nous réjouissent aussi de manière sensible.
Tu vois, je pensais à une mère Teresa, les moments de jouissance, de la joie, en fait, véritable de l'espérance, lui ont été donnés plus dans des espèces d'éclairs, où ensuite elle est prête à en être redépouillée. C'est pour ça que je parle d'une certaine... Mais dans ces moments-là, elle connaît ce qu'elle reçoit. Et ça me fait penser à ce que dit Thérèse d'Avila, si nous ne connaissons pas que nous recevons, nous ne nous éveillons jamais pour aimer. On a aussi besoin de connaître que nous recevons, même dans son cas où c'est par intermittence, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne vit pas en fait tous ses actes dans l'espérance. Mais l'espérance est quand même très nue. C'est juste parce que tu disais, au fond, la vertu s'accompagne d'une joie. C'est là que je trouve ça parfois pas si simple à... Mais en fait, ça ne veut pas dire que sur l'ensemble d'une vie chrétienne... Enfin, pour moi, c'est l'alternance. Est-ce qu'il ne faut pas compléter ça un peu par Ignace ? C'est-à-dire cette conscience aussi de l'alternance, de la consolation et de la désolation.
Oui, mais après, si tu lis Saint Jean de la Croix, tu vois aussi quand même qu'il y a les purifications qui montent d'un cran à chaque fois. Donc, il n'y a plus ces mêmes alternances après.
Oui, oui. Mais même quand, pour un Saint Jean de la Croix, la question de l'absence existe, en fait. Mmh.
Mais donc, c'est par les vertus théologales qu'on s'accroche à Dieu et qu'on a ce qu'il faut. Quoi.
Ouais,
et puis aussi par les dons de l'Esprit Saint, à condition de ne pas s'attacher aux dons de l'Esprit Saint.
Mais évitons joyeusement, c'est ça la lèche, je n'arrive pas complètement à être. Mais voilà, c'est pas résolu pour moi ce soir.
Oui.
Et j'ai juste une question sur l'acédie. Est-ce que c'est. Une tentation extérieure ou un état de l'âme et quels sont les moyens en fait pour. Enfin, qu'est-ce que dans la tradition, les moyens pour sortir de cet état de tentation ?
Ça, je ne saurais pas dire. J'ai jamais étudié la question de la cédie chez saint Thomas. En tout cas, là, il dit que c'est un abattement qui fait qu'on a l'impression que la vie éternelle n'est pas possible pour nous en fait.
D'accord.
Un dégoût des biens spirituels. Enfin, dans ce peu que j'ai retenu du livre de Bourneau, il disait que, chez saint Thomas, je crois, l'ascétie est un dégoût des biens spirituels, notamment provoqué par les plaisirs.
Voilà.
Donc, l'autre,
En tout cas, là, dans le traité de l'espérance, c'est plutôt l'aspect du bien impossible qui en a parlé. Parce qu'on est abattu, voilà. Oui.
Est-ce que dans l'espérance, il y aurait une notion d'équilibre en quelque sorte entre une tension vers la vie éternelle et le fait de vivre déjà dans le présent je ne sais pas comment dire, moi j'ai l'impression, est-ce qu'il n'y aurait pas le risque d'une espèce de fuite du temps, je sais pas, c'est...
Ouais, c'est une très bonne question, c'est un peu une objection, notamment Benoît XVI, il a écrit son encyclique sur l'espérance pour répondre à cette objection-là, à savoir les chrétiens, c'est un peu l'objection de Nietzsche, les chrétiens, ils se projettent dans un avenir hypothétique et du coup ils vivent pas le présent quoi. On voit bien dans ce que dit saint Thomas, il y a un bien principal, un objet principal de l'espérance, puis il y a des objets secondaires en fait. Ça veut pas dire que les objets secondaires, c'est tous les biens présents ou tout ce qu'on a à vivre maintenant. Mais ce qui est très important, c'est que ça met un ordre en fait. C'est que ça veut pas dire que ce qu'on vit maintenant est pas important. C'est-à-dire que ce qu'on a à vivre maintenant, on trouve son importance relativement à la vie éternelle. Donc c'est un principe de discernement. Quand il n'y a pas d'idolâtrie des biens. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à faire toutes les expériences, à vivre toutes les vies, à tout essayer. Non, le chrétien, il cherche à trouver dans les biens de ce monde le chemin qui le mène à Dieu, en fait. Alors du coup, il estime les biens de ce monde, mais il estime le service du prochain, il estime tout ça, mais il l'estime en vue de quelque chose, en fait. Ça, c'est assez important. Et quand on lit, c'est très intéressant, comment saint Thomas commente le Notre Père, on voit comment il y a un ordre, en fait. Et comment la demande de la vie éternelle, il y a d'abord la demande de la charité, puis la demande de la vie éternelle, qui est l'objet de l'espérance, l'objet principal, puis après la demande de faire la volonté de Dieu, qui est au fond le mérite, c'est-à-dire le chemin vers la vie éternelle, puis après tout ce qui vient ensuite, c'est en vue du mérite. Donc c'est très bien ordonné, il faut prier le Notre Père dans l'ordre, en fait. C'est le bon ordre. Le Christ est la sagesse incarnée, donc il l'a forcément mis dans le bon ordre, les demandes du Notre Père.
Et en parlant d'ordre, j'ai une autre question. Tu disais que la crainte de Dieu intervenait comme le dernier des dons. Et alors ça m'intrigue par rapport à ce qui est dit dans l'Écriture, parce que dans l'Écriture on dit souvent que évidemment le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, donc on a l'impression qu'elle est aussi finale à certains moments dans l'Écriture, mais elle intervient aussi un peu au début. Et alors ça, comment est-ce que Augustin et Thomas arrivent là, tu sais?
Augustin qui dit que les dons de l'Esprit Saint dans le livre d'Isaïe sont classés en ordre descendant. On commence par la sagesse qui est le plus haut, puis on termine par la crainte qui est le plus petit. Et puis les béatitudes, c'est dans l'autre sens, parce qu'il trouve aussi cette béatitude, c'est-à-dire qu'il déplace un peu les dernières, quoi. Et donc là, il dit ça va dans l'autre sens, et il fait une correspondance entre les dons de l'Esprit Saint et les béatitudes. Et donc, de fait, la sagesse, la crainte de Dieu, une forme de commencement, de don fondamental.
D'accord, c'est pas un couronnement, parce que du coup...
Non. Couronnement, c'est la sagesse, oui. Écoutez, merci de votre attention, et puis...
On peut prier les complices, si tu veux.
Très volontiers.
Allez, petit à